Alors, il y a plusieurs limites à ce concept de solution. Ce sont les limites qu'on identifie en tant que théoricien des jeux, toujours. Une première limite, c'est sa logique circulaire, puisqu'il faut que nos croyances réciproques sur le comportement de l'autre se rencontrent. C'est parce que j'anticipe que mon opposant raisonne comme moi qu'il va effectivement raisonner comme moi. Donc, on a une logique circulaire. Une seconde limite, c'est la multiplicité. Puisque mon objectif, c'est de prévoir l'issue du jeu. Que se passe-t-il quand il existe plusieurs équilibres de Nash? Ce qui est le cas dans un jeu de coordination. Il existe plusieurs équipes de Nash. On pourrait s'imaginer que les joueurs se coordonnent sur l'équilibre de Nash qui rapporte la somme des paiements les plus élevés. On parlera d'un équilibre de Nash Pareto optimal, Pareto efficace. Mais que se passe-t-il si les paiements sont équivalents? Comment les agents font-ils pour se coordonner? Donc, on formule plusieurs réponses. Une première réponse va être de dire que, on va donner un signal, parce que bon, les agents ne peuvent pas communiquer directement dans notre monde de théoriciens des jeux. Donc, oui, on va donner un signal pour que les joueurs se corrèlent sur l'un des équilibres. Un exemple de signal, ce sont les feux de signalisation. Étant donné le signal et la conscience réciproque de ce signal, les joueurs n'ont pas intérêt à dévier. Et donc ça, c'est la manière dont on caractérise une convention en théorie des jeux. Donc, par exemple, le jeu qui se trouve sur, enfin, la matrice des paiements que vous voyez sur État du monde 2, en fait, c'est un jeu qui s'appelle le Chicken Game. Donc, c'est le jeu de la poule mouillée. Donc, l'idée, c'est que deux voitures se font face. Une ligne blanche sépare la route en deux. Et donc, elles se foncent dessus. Et celui qui donne un coup de volant pour éviter l'autre a perdu par rapport à celui qui a tenu jusqu'au bout et qui n'a pas donné de coup de volant. Évidemment, si personne ne donne de coup de volant, on se trouve sur le profil de stratégie qui rapporte des gains calamiteux, puisque un accident est produit, se produit. Donc voilà, ce jeu-là, c'est un jeu de coordination et vous le voyez, il est décrit par la matrice des paiements qui se trouve en dessous de État du monde 2. OK, donc une autre réponse que celle des signaux corrélants. Ça va être de dire que le jeu est répété et que cette répétition est l'occasion d'un apprentissage et d'une trajectoire vers l'un des équilibres de Nash. Et donc ça, c'est le prisme évolutionnaire. Alors, quand on considère un jeu d'un point de vue évolutionnaire, les stratégies, elles vont définir des types de joueurs. Et le paiement obtenu à l'issue de leur rencontre, qui est du coup une rencontre de stratégie, est interprété comme une valeur adaptative ou succès reproducteur. Selon les proportions de chaque type dans une population, les rencontres répétées impliquent qu'un certain comportement doit être efficace en moyenne, sinon ce comportement disparaît puisque le type au comportement inefficace s'éteint. Si on considère des interactions répétées, la stabilité d'un équilibre va dépendre de la proportion des types. Ou d'une autre manière de le dire, va dépendre de si la stratégie résiste à des déviations simultanées de groupes de joueurs. L'idée, c'est qu'avec une certaine force de déviation, on peut évoluer vers un autre équilibre. Le joueur déviant peut être considéré du point de vue de la théorie des jeux comme faisant une erreur ou comme expérimentant, sachant que pour un nombre de joueurs déviants suffisamment grand, le résultat du jeu peut évoluer vers un nouvel équilibre, avec possiblement une amélioration en termes de gains agrégés. Donc l'idée, c'est que enfin, la manière dont les théoriciens des jeux voient les conventions ont lieu quand il y a plusieurs équilibres dans un jeu, une trajectoire nous a fait converger vers l'un des équilibres, et une fois qu'on est sur l'équilibre, on n'a pas d'incitation unilatérale à dévier. Par contre, on peut, si on a une force de déviation plus grande et que plusieurs joueurs dévient simultanément, se déplacer vers une autre case de la matrice des paiements et potentiellement, qui sera potentiellement un nouvel équilibre. Moi, je pense que c'est sûrement une déformation professionnelle, mais je sais que Ces raisonnements me parlent beaucoup en ce qui concerne, je sais pas, la normativité, le genre et tout ça. C'est-à-dire que vivre et assumer sa différence quand on est seul à le faire, c'est beaucoup plus coûteux que quand on est plus nombreux. Donc voilà pour le prisme évolutionnaire. Alors, ce qu'il faut retenir, du coup, ça, je vais l'exemplifier en parlant de finances très rapidement et de la notion de fondamentaux. Vous pouvez trouver sur Wikipédia ce qu'on appelle les fondamentaux, ce sont des données macroéconomiques qui vont permettre d'analyser et de déterminer le potentiel d'une entité économique, une entreprise ou un État. L'analyse de ces différents critères fondamentaux sert notamment à la sélection d'actifs devant se valoriser à long terme. Donc, en fait, en finance, les fondamentaux agissent comme un signal qui induisent des comportements de vente ou d'achat qui vont autoréaliser les prix des actifs. Les marchés financiers, en fait, sont des endroits normatifs, où on pourrait même parler de naturalisation économique, je ne sais pas, Anna, tu pourras m'aider à formuler ça correctement, où l'on synchronise les fondamentaux, c'est-à-dire la valeur et les prix. Voilà, donc pour cette initiation de théorie des jeux, je vais finir par deux remarques qui concernent le mouvement de gamification. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, si vous avez entendu ce terme, la gamification, c'est un anglicisme. Donc l'idée de la gamification, c'est de construire et de stabiliser des usages ou des apprentissages par le jeu. Donc, tout ce qui est serious game qui sont menés en entreprise. Moi, par exemple, à l'INRA, on vient de développer un jeu pour éduquer à l'extraction de ressources soutenables. Voilà. La gamification dépasse le champ des jeux sérieux. Et notamment, j'ai découvert des applis qui sont des applications gamifiées de productivité. Alors, il y en a plusieurs, Todoist Karma, Phytocracy, Bandit Tasker, Epic Win, etc. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Vous ouvrez votre appli, quelquefois, ça vous permet de jouer même en réseau. Et donc, vous êtes face à une interface de jeu et les actions que vous avez, que vous pouvez faire dépendent en fait de si vous performez vos tâches quotidiennes, IRL. Donc, si je le reformule en termes de théoricienne des jeux, il s'agit de superposer un jeu à un autre pour modifier la matrice des paiements et les incitations à agir d'une manière plutôt que d'une autre. Donc, je crois que j'ai des images. Ok, partager l'écran. Est-ce que vous voyez le Habit Hunter? Alors bon, il faudrait que je mette un diaporama. Voilà. This game will keep you stay motivated to complete any goals in your life. Donc vous voyez, faire une pause. Donc en fait, vous notez les tâches qu'il faut que vous réalisiez. Ah. Et quand vous les avez réalisées, ça vous permet de progresser dans ce paysage et de chasser des monstres. Donc en fait, c'est évidemment c'est un tracker que vous auto-traquez dans vos tâches quotidiennes. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, on donne des incitations supplémentaires à celles qu'on a déjà IRL à performer nos tâches. En superposant une matrice de paiement qui est celle définie par ce jeu, par cette appli. Et en fait, on trouve de plus en plus d'applis comme ça. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'évidemment, vous gagnez des points. Et ces points, donc, qui pourraient correspondre à ces paiements quantitatifs dont je parlais là, au moment de la présentation d'Axiomatique rationnelle, ici, ils ont des noms, donc, par exemple. Il y a une autre application, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais on accumule des points karmiques. Voilà, donc je ne sais pas ce que ça vous dit de la monnaie, mais voilà. Et toujours dans ce mouvement de gamification, bah, moi, en fait, ce que je propose, c'est une gamification de l'espace d'exposition et de la production des expositions. Et donc, je ne sais pas quelle heure il est, là. 15h21. J'ai encore 5 minutes pour parler, pour faire un rapide compte-rendu d'expérience. Donc, j'ai animé un workshop il y a quelques mois à la IR. Et donc, en fait, je partais d'une analogie entre la preuve de travail crypto-monétaire et la question du cryptage et de l'idiolecte dans l'histoire de la poésie. Et donc, en fait, avec des étudiants et des professeurs, on a conçu les règles d'un jeu qui, en fait, s'avérait être une économie qui générait un accrochage. Et en fait, les transactions reposaient sur un stock de valeur qui était produit par les étudiants quand ils généraient du texte que je rémunérais. Selon un faisceau de critères qui avait à voir avec ce qu'on appelle la preuve de travail crypto-monétaire, mais que j'appliquais à des questions de texte poétique. Et en fait, cette valeur ouvrait des espaces de stratégie en termes d'accrochage, d'acquisition. Et puis finalement, on a produit une exposition qui était l'accrochage qui avait été généré par le jeu, auquel ils ont joué pendant 2 jours après avoir conçu les règles, mais aussi la documentation de toutes les transactions qui avaient eu lieu et que je consignais sans qu'on explicite le processus ou la règle qui les avait générées. Voilà, donc un deuxième exemple de gamification. Et j'ai terminé.